tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Bonjour à tous, bienvenue sur M Radio et bienvenue chez Beaugrand. 2 heures de balade, de discussion, de confidence et parfois de fou rire avec notre invité. Mika est aux manettes aujourd'hui. Bonjour Mika.
Bonjour.
À vous de deviner le nom de notre invité du jour. Voici un premier indice, il s'agit de ses initiales.
A, B, C, D.
Alors, A, B, on s'arrête sur les premières. A et B. Et maintenant, voici un indice sur son prénom. Écoutez bien.
Et c'est vrai que durant les premiers jours, elle a été tout près de l'élimination.
Elle est super gentille, mais elle est faible quand même.
Ah bah oui. Eh bien, il s'agit de la gagnante de Koh-Lanta en 2002. Son prénom, ça vous dit quelque chose? Elle s'appelait Amel, eh oui. Et notre invitée, c'est Amel Bent, bien sûr. Ah voilà, Amel Bent, c'est bien ça. C'est pas toi qui participais à Koh-Lanta il y a quelques années.
Elle est faible.
Elle est faible, mais elle a gagné.
C'est horrible de dire ça sur quelqu'un.
J'avoue, c'est horrible. Mais elle a quand même gagné les poteaux, donc ça va.
Oui.
T'aurais été bonne à Koh-Lanta, tu penses, toi?
Ah non, mais nulle. Moi, je suis bonne qu'à danser, en termes d'endurance physique. Bon, tout le reste, ça m'épuise plus facilement, plus rapidement que danser.
Mais en même temps, t'as un mental de reine. Il faut avoir du mental, quand même, pour faire cette carrière depuis si longtemps, si j'ose dire. J'ai le droit de dire que ça fait longtemps.
Ah bah bien sûr, c'est une
même un compliment parce que ça dure.
Un compliment bien sûr. Mais accompagné de musique, j'ai plus d'endurance.
Ouais. Oui, c'est vrai. On va écouter beaucoup de musique aujourd'hui, tu vas voir. Merci d'être avec nous en tout cas en ce samedi matin. Je sais pas si toi le samedi matin tu fais quoi, c'est genre grasse mat, tu fais les courses, tu fais la cuisine avec tes enfants.
Tout mélangé, mais sauf la grasse mat.
Ah, oui,
peut-être que je dors debout.
Mais... Ils se réveillent tôt, parce que t'en as trois maintenant.
Trois, ouais. On se réveille tous à peu près à... le week-end, on va dire 8h.
Ah,
7h45, 8h.
Ça, c'est le max, ça.
Ouais, c'est la grande grasse mat.
C'est la
du
grosse, grosse grasse mat.
Non, c'est 7h.
On va parler de musique aujourd'hui, évidemment, de la nouvelle saison de The Voice qui débute ce soir sur TF1, de ta tournée qui débute dans quelques semaines, ce sera au mois d'avril, de la vie en général. Mais d'abord, sublime chanson extraite de ton dernier album, Pourquoi tu restes? Nous, on veut que tu restes au moins jusqu'à midi, c'est possible?
Bien sûr, mais un peu plus si vous insistez.
Allez, peut-être si on est gentil. Pourquoi tu restes? Amel Bent est avec nous sur M Radio.
Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Et surtout avec Amel Bent qui est avec nous jusqu'à midi.
Dis-moi pourquoi tu restes si t'étais vraiment honnête.
Mais elle est absolument magnifique cette chanson. Moi j'ai envie de pleurer quand je l'écoute évidemment. Parce que comme d'habitude, tu adores les chansons tristes. On peut le dire quand même.
Ah oui, je l'ai chanté même que j'aime les chansons tristes.
T'es spécialisée quand même.
Ouais, c'est une passion. Une passion.
Passion-tristesse.
Passion-tristesse, comme pour rééquilibrer ce qu'il y a au fond de moi. En fait, plus j'écoute de la musique triste, plus je chante la tristesse, plus je me sens libérée, apaisée.
Ça te fait du bien.
Ouais. Ça me fait compenser, en fait, avec mon chagrin, le chagrin que j'ai en moi, en fait. Et c'est comme si ça laissait place à toute la joie qui a besoin d'exulter aussi.
Et puis ça fait du bien aux gens aussi. Parfois, quand on est un peu triste, on a envie d'écouter une chanson triste qui va comprendre ce que tu vis, en fait. C'est ça.
Ça fait sortir les larmes, ça donne la sensation d'être un peu moins seul.
Ne retiens pas tes larmes, pleurer, ça fait du bien, voilà.
Oui. Moi, j'avais prévenu depuis le début. Hein.
Exactement, c'était prévu depuis le début. Alors, tu as écrit cette chanson à quatre mains avec Vita. C'est une chanson de femme, ça, vraiment. C'est la chanson... d'une femme qui a un homme qui, et les hommes ils osent pas quitter, c'est vrai ça?
Là on va rentrer dans un vrai débat. Non, mais en fait moi je suis arrivée en studio avec vraiment ce thème qui n'en est pas un, parce que c'est vraiment une phrase que je dis moi quand je me dispute avec Doudou. Au lieu de dire dis-moi que tu m'aimes, c'est pourquoi tu restes alors. En fait c'est une phrase un peu d'orgueilleuse et provocante, en fait. C'est juste pour provoquer le... soit la personne elle te dit ouais t'as raison, moi-même je ne sais pas, je me barre, ou elle te dit je reste parce que c'est comme un besoin de réaffirmer en fait son amour, de reconfirmer son amour.
Oui, c'est en fait c'est un besoin de dire montre-moi que tu m'aimes encore, quoi.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
C'est
elle a bien marché la chanson à la maison.
Ah alors ça y est, t'as été
à la maison, c'est un énorme tube, hein, c'est 8 fois jour.
Mais du coup tu as eu ta réponse?
Ah ouais, non mais même mes enfants se sont mêlés, hein. J'ai fait écouter à mes filles, mon mec est rentré, alors papa, mais dis-lui que tu l'aimes. Il a été assailli de toutes parts.
Alors sur cet album sorti il y a quelques semaines maintenant, il y a également ce premier extrait en tout cas qu'on a beaucoup entendu, qui a beaucoup fait parler, c'est Décharge mentale.
Il y a des trucs, pourquoi je les garde comme des souvenirs que j'entasse. J'ai des factures de 2000.
2004, faut que je fasse un tri dans ma paperasse.
Tu racontes la galère du quotidien. Je pense que énormément de femmes ont dû se reconnaître dans tes mots, cette fameuse charge mentale, donc les factures, les devoirs, le carnet de liaison, les repas, les kilos en trop, les cheveux blancs, le stress, la fatigue, etc. Est-ce que tu as eu justement beaucoup de retours de femmes qui ont l'habitude de t'écouter et qui se disent « Ah, mais c'est ma vie, ça !»
Ah ouais, les retours ont été tellement nombreux, mais surtout, ils étaient tellement profonds. C'était magnifique de me sentir tout à coup le maillon d'une grande chaîne, en fait. Je me suis vraiment... En fait, j'ai vraiment ressenti ma sororité, qui est, moi, une valeur qui est vraiment très importante dans ma vie.
Donc, tu as parlé au nom des femmes, en général?
Non, franchement, j'ai parlé au nom de moi-même. Et je pense que ce n'était pas seulement ma condition de femme, c'était aussi ma condition d'extrasensible, d'hypersensible. Ouais. Et c'était une période où j'étais encore plus sensible parce que fragilisée par la vie. En tout cas,
tu as vu que ça correspondait visiblement au ressenti de beaucoup d'autres.
Ah ouais. Et franchement, je ne sais pas si c'est presque un peu sadique, mais de sentir que je n'étais pas seule et que c'était validé par plein d'autres femmes, des milliers d'autres femmes, ça m'a...
Ça rassure ?
Ça m'a réchauffé le cœur, je me suis sentie moins faible, moins... Bizarrement, raconter ma faiblesse m'a donné de la force, en fait.
Mais d'ailleurs, dans cet album, quand on écoute toutes les chansons, on a quand même l'impression que c'est un peu la femme qui est libre, qui est de plus en plus libre, qui a envie de dire merde de temps en temps, qui a envie de faire ce qu'elle veut. Il y a l'idée de, je sais pas, un peu un bilan de femme à 40 ans, c'est ça? Ou peut-être pas consciemment, hein.
C'était pas consciemment, mais en tout cas, ouais, j'ai senti que c'est ce qui était en train de se passer dans ma vie à l'aube de mes 40 ans. L'année de mes 40 ans, il y a eu le besoin de faire comme une forme de bilan, une forme de... Mais c'est surtout, je pense que c'est aussi ma vie d'artiste qui provoque ça, c'est de ne jamais se poser de questions, et puis c'est même mon éducation, en fait.
Ouais.
Pas trop se poser de questions, agir à l'instinct, et puis toujours foncer.
Et bosser, c'est ça.
Et bosser. Et puis souvent, un peu s'oublier, oublier vraiment ce qu'on est vraiment profondément dans ses failles. Et là, ça a été, allez, là on s'arrête deux secondes, et on va vraiment faire le bilan. Pour rire, je dis, c'est un peu le contrôle technique, tu sais, pour savoir si t'as le airbag takata, toi aussi.
Donc ça va, tu roules encore correctement, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a un truc à changer? Mais ça a été un tout, il y a l'album, mais il y a eu aussi les check-up à l'hôpital. Je ne vois pas de psy, mais j'ai passé des nuits à me poser beaucoup de questions, qu'elles soient existentielles, comme des questions toutes bêtes, à retrouver des gens de l'enfance.
Ouais.
À qui j'avais besoin de dire des choses, j'ai dit les choses que j'avais pas dites en
40 ans. Ah oui, donc il y a vraiment eu un bilan hyper global. Ça a été un moment où tu as eu besoin de faire le bilan et un moment où tu as peut-être eu besoin aussi de dire que tu voulais faire ce que tu voulais.
Laissez-moi danser comme je veux, danser comme je veux.
C'est génial parce que cette chanson, vraiment, tu appelles les gens à faire ce qu'ils veulent aussi et se moquer de ce que les gens pensent.
Bah, en fait, c'est un peu comme ma philosophie il y a 20 ans. Hein.
Ouais. C'était déjà ça, ouais.
C'est chanter ce que je n'arrive pas à faire. C'est chanter comme pour moi-même me donner du courage. Moi, je suis quelqu'un qui, de toute façon, je suis née dans le regard des gens, je suis née à la télé.
Ouais.
Tout ce que j'ai fait en 22 ans, c'est a eu besoin d'une validation du public. Et pareil, quand je fais Danse avec les stars à l'époque, c'est parce que moi, la petite complexée, j'ai envie de danser, mais je me dis, les gens, ils vont se moquer de moi. Je n'ai pas un corps de danseuse. Est-ce que même je suis légitime à le faire? Et c'est encore à la télé que j'ai demandé aux gens de me donner l'autorisation de faire. En fait, j'ai toujours demandé l'autorisation. Et putain, t'arrives à 40 balais, tu dis, mais attends, j'ai trois gamins. J'ai traversé des épreuves de dingue dans ma vie. Et ça a commencé bien avant que je sois connue. Encore, je vais demander l'autorisation, ne serait-ce que de monter sur une table et de péter un câble 10 minutes, est-ce que ça va changer ce que je suis? Est-ce que ça va changer ma valeur de femme, de mère, d'épouse,
donc
d'artiste?
Maintenant, tu ne demandes plus l'autorisation, tu fais
ce que
tu
veux. En tout cas, j'ai chanté une chanson qui me donne envie de me dire, allez, j'en ai rien à foutre. Moi, ce soir, je vais danser comme je veux.
Moi, je pense que si tu me voyais danser comme je veux, tu me demanderais d'arrêter.
Mais moi, je ne le fais pas. J'ai toujours peur, j'ai toujours honte.
On fera ça pendant la chanson suivante, peut-être. Bon, on va écouter plein d'autres tubes d'Amel Bent et on va revenir sur ta carrière qui a déjà plus de 20 ans.
Mais 22.
Mais tu ne les fais pas, je te rassure, tu ne les fais pas.
M Radio. Tous les samedis, 10h midi, bienvenue chez Beaugrand.
Avec Amel Bent qui vient avec sa philosophie, évidemment. 2004, il y a donc 22 ans, numéro 1 direct, le tube était énorme. Et surtout plus de 20 ans après, c'est une chanson qui dure, qui continue de passer à la radio partout, que tout le monde connaît par cœur. C'est une bénédiction dans une carrière, un truc pareil quand il t'arrive quelque chose, que le public te fait connaissance avec toi, avec un tube gigantesque.
Ouais, franchement, c'est une bénédiction, je le dis souvent, mais surtout ce que j'aime avec cette chanson, c'est qu'elle accompagne les gens, encore aujourd'hui, dans leur combat, dans leur, ouais. dans leur ode à leur propre différence, dans le courage qu'ils ont besoin parfois de trouver pour défoncer des portes et faire devenir ce qu'ils voudraient être.
Et toujours le point levé, voilà.
Mais moi, c'est une chanson qui m'accompagne, moi. Le nombre d'artistes qui vont pas se détourner de leur premier tube
parfois ils en ont marre de chanter. Voilà.
Mais moi cette chanson, en fait, c'est à dire que même mes tournées, j'ouvre mes concerts avec cette chanson. En fait, c'est je me dis mais j'ai tellement bien fait d'avoir cette capacité à l'époque. J'ai 18 ans quand je suis en studio et que j'écris cette chanson avec Diams, de dire je veux écrire ma carte d'identité. Je veux que cette chanson me ressemble à la lettre.
Mais c'est aussi parce que c'est une chanson que... Ce sont tes mots, c'est une chanson que tu sentais vraiment. C'est pas une chanson qu'une maison de disques t'a proposée, voire imposée. Il y a ça aussi.
Ça partait de moi. Et, et évidemment, la plume de Mélanie à cette époque-là, qui a compris qui j'étais et ce que j'avais envie de dire. En fait, cette chanson ne vieillira jamais pour moi. Elle est constamment d'actualité dans mon cœur.
Je pense que pour le public non plus, elle vieillira jamais. Celle-là non plus, d'ailleurs.
Ne retiens pas tes larmes.
Alors là, je vais te dire, moi, qu'est-ce que j'ai pu pleurer sur cette chanson, et je suis pas le seul. Quand on se fait larguer, c'est la chanson qu'on a envie d'écouter. Je suis sûr que beaucoup de gens, t'as accompagné beaucoup de Français qui nous écoutent là ce matin. Elle nous a aidés dans ces moments-là.
Ben, rupture. C'est pour ça que je fais de la musique. C'est pour m'aider, et pourquoi pas aider quelqu'un. Ouais. Et ne retiens pas tes larmes, c'est fou. Quand je fais cette chanson, elle me touche pas parce qu'elle raconte. Parce que moi, j'avais pas vécu de chagrin d'amour. J'avais même pas eu de copain encore à l'époque quand je chante cette chanson. Donc,
j'étais
même pas
vraiment une gamine, quand même. C'est incroyable.
Mais par contre, cette chanson, ce qu'elle symbolise pour moi et pourquoi elle m'a bouleversée, c'est que c'est Franck Sidbon, qui est le pianiste de La Nouvelle Star, avec qui j'ai beaucoup de moments intimistes, puisque je fais pas mal de piano-voix pendant l'émission. Et le soir où je perds, il me dit écoute, t'as perdu, voilà.
Mais... C'était la demi-finale.
Voilà, il me dit, je sais pas si une maison disque, je l'espère du fond du cœur qu'une maison disque te repère et que tu fasses des chansons, un disque un jour, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça a été un bonheur de travailler avec toi pendant ces quelques mois. Il avait perdu sa femme, il m'a dit j'ai une chanson que j'ai écrite et composée.
Je savais pas que c'était ça l'histoire, d'accord.
Il me dit j'ai jamais trouvé la voix qui pouvait porter ce chagrin, ce manque, cette absence. Ouais. Et c'est à toi que je voudrais l'offrir. Donc j'espère que si un jour tu fais un disque, tu pourras la chanter. Et donc en fait, cette chanson, c'est la vraie première chanson qu'on m'a confiée. Ouais. Et c'est surtout la première fois, alors que j'étais personne, qu'on m'a dit t'es quelqu'un. En tout cas, t'es quelqu'un d'assez talentueux pour porter une chance, pour porter mon chagrin.
Ouais, je comprends, c'est énorme.
Et c'est pour ça que cette chanson me bouleverse et m'a toujours bouleversée et m'a bouleversée au départ. C'est quelqu'un m'a donné l'heure, en fait, avant que je sois à Melbourne.
Et c'est une grosse responsabilité aussi, par rapport à son histoire à lui.
Quelqu'un m'a dit, je veux que ce soit toi qui chantes ça.
Ça, c'est beau, ça.
Et donc, voilà.
Il y a aussi une chanson qui a, sans doute, je pense, contribué à faire évoluer ton image.
Je suis ici.
Là, on avait une Amel peut-être plus engagée, plus politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tous unis sous le même drapeau.
Ouais.
Et c'est génial d'avoir ces mots-là, avec ce mot assumé, en disant voilà, je suis une enfant de la France. Tu avais besoin de le dire, ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens de ta génération ont eu envie et besoin d'entendre ce message.
Bah, je sais pas, cette chanson à l'époque, elle avait fait pas mal de polémiques parce que je crois qu'elle était sortie.
Là, c'était avant les présidentielles.
Elle est sortie, je crois, le jour de l'investiture de Sarkozy.
Ouais.
Et moi, c'était pas du tout. Moi, j'étais pas du tout dans un planning politique. Je calculais même pas la politique à l'époque. Peut-être que j'aurais pas sorti la chanson à ce moment-là.
Non, mais c'était politique.
Pour éviter l'amalgame.
Non, mais c'était dans le sens sociétal, en tout cas.
Moi, j'ai jamais fait de chanson politique. Je suis apolitique en musique. Par contre, je reste une femme émotionnellement engagée, en tout cas, et qui a besoin de dire ce qu'elle ressent. Donc, évidemment, c'est quelque chose que j'avais besoin de chanter. Mais la vraie histoire de Nouveau Français, c'est qu'à l'époque, moi, j'avais un drame. Je vivais un drame personnel.
Ouais.
Et de l'ordre du sentimental, et j'avais de merveilleuses chansons sur cet album à 20 ans qui était la pire année de ma vie, et je voulais absolument pas que ce soit récupéré. Donc en fait, j'ai un peu balancé Nouveau Français pour noyer le poisson, parce que je voulais pas.
D'accord, c'était un contre-feu un peu.
Ouais, et en fait, je pensais que envoyer Nouveau Français, ça allait entre guillemets, dévier un peu le regard un peu trop voyeur de l'époque sur moi. Et en fait, ça a fait l'inverse, ça a créé une autre
ça
polémique.
Ça fait une petite polémique.
Je dis, mais putain, c'est pas possible. Ça va pas du tout. C'est... Et moi, je déteste ça, je déteste les polémiques, je déteste être au centre de quelque chose qui n'est pas la musique. Ouais. Je suis quelqu'un d'hyper discret et tout. Et bon, bah, c'est la vie. En tout cas, moi, chanter ma notion de ce que c'est que l'identité et la manière dont on doit être, ne jamais se vider de sa substance et assumer tout ce qu'on est, Nouveau Français s'inscrivait dans cette dimension-là, en tout cas.
Alors, j'aurais envie d'en écouter tellement. Juste un petit extrait de Tu n'es plus là.
Ah, c'est celle-là que je voulais sortir.
Bah, j'ai bien compris entre les deux. Voilà, celle-là. Ça a été un tube aussi, évidemment.
Qui est sorti en troisième single et qui a été un tube malgré tout, mais que je voulais pas sortir en premier. Alors que c'était ma préférée de l'album.
Est-ce que tu as le sentiment, quand tu chantes une chanson, que tu la vis vraiment, qu'il y a un boulot de, j'allais dire, de comédienne? Là, en l'occurrence, c'est une histoire
l'inverse.
Personnelle, donc là, c'est pas un truc
moi,
de comédienne.
Moi, je chante ma vie, donc je ne fais jamais la comédie quand je chante. Oui. Par contre, il y a des très bonnes prestations et des mauvaises prestations, en tout cas des prestations dont moi, je suis moins fière, c'est quand j'arrive pas à me connecter. En fait, je suis tellement hypersensible qu'il suffit qu'il y a quelqu'un qui tire la tronche dans le public.
Ah, ça te perturbe, genre au premier. Si tu vois une tête au premier rang.
En fait, moi, chanter, c'est presque rentrer en transe et c'est me connecter à 2000% à mes émotions, à mes souvenirs de soit du passé. Parfois, quand la chanson elle est plus d'actualité émotionnellement parlant, c'est me reconnecter à quelque chose, à une vraie, un vrai chagrin que j'ai ressenti ou que je ressens encore. Quand ça le fait pas, ben ça le fait pas, ça se connecte pas. Et Tu n'es plus là fait partie des chansons qui m'oblige
à me connecter
à ma douleur. Ouais.
On va continuer de parler de ta carrière, notamment via les duos et les artistes incroyables avec qui tu as la chance de collaborer. Et on va écouter ton duo 2020 avec Jiménez jusqu'au bout et on en parle juste après. M-Radio, M-Radio.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M-Radio.
Et sur M-Radio avec Amel Bent, on réécoute un petit extrait, Jiménez. Il est né comment ce duo avec Jiménez? Parce que gros tube, mais un peu plus urbain, sans doute. Il y a des sonorités un peu plus orientales, j'en sais, un peu moins variété peut-être.
Les morceaux comme ça, ils existent depuis mon premier disque. En fait.
Mais bon. Oui, mais on les entendait moins, c'était moins les singles peut-être.
Ah oui. Mais en tout cas, la chanson, elle naît sans Jiménez au départ. Je suis en studio avec John Maman, Vita, Renaud Robillot. Et moi, pareil, j'arrive avec mon thème. J'ai senti que sur les quelques dernières années, la sensation qu'on voulait un peu m'enterrer alors que j'étais encore vivante. On m'a dit des trucs qui m'avaient blessée, du style que je faisais partie, ça y est, des vieilles chanteuses. Que
c'était fini, genre que tu faisais partie du passé.
Pas que c'était fini, mais qu'il fallait presque un peu faire le deuil d'une forme de succès, les succès un peu des débuts.
Ouais.
Et que tout ça appartenait vraiment au passé. Et qu'il
genre
fallait
plus
maintenant...
de tubes, quoi, c'est ça.
Ouais, en tout cas que j'avais pas un profil de meuf qui stream. Putain, j'ai dit meuf et tout, là, je vais me faire défoncer. Oh, j'ai dit défoncer. En tout cas,
peut-être tes enfants écoutent, fais attention quand même.
Mes enfants, ils écoutent pas. t'imagines bien. Sinon, je parlerais comme une maman. Et du coup, la chanson, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose dans la chanson.
Ouais.
En fait, il me manquait quelqu'un. C'est-à-dire que la chanson, il lui manquait la notion qui était importante. C'est que qu'est-ce qui fait que je me sens vivante aujourd'hui? Bah c'est bien parce que je suis pas figée dans le temps.
Ouais.
Je suis en évolution. Et qu'est-ce qui fait que je suis en évolution? Bah c'est que je suis dans la transmission tout le temps et je suis dans l'écoute de ce qui se passe et j'écoute mes enfants et j'écoute mes petits cousins, mes petites cousines, et j'écoute les gens que je croise dans la rue, peu importe leur âge, et j'écoute les vieux artistes, des artistes qui sont morts depuis longtemps, mais j'écoute aussi des artistes qui émergent, qui viennent de sortir un EP,
donc
un
fallait
single.
Partager avec ces artistes là. Voilà.
Ouais. Et je me dis, mais en fait cette chanson, elle va avoir du sens que si elle s'inscrit dans cette notion de transmission. Et là, on se dit, putain, faut la chanter avec quelqu'un avec qui j'ai été chercher la plus belle voix du moment. La plus belle voix que j'avais entendue.
C'était
la voix d'Imen Ouest. Et elle est venue en studio. Et effectivement, la chanson, elle a pris un tournant incroyable quand elle a posé dessus.
Ouais, gros succès.
Et elle a eu un sens. Un sens très fort qui n'était pas juste je suis vivante. C'est je suis vivante et je suis dans la générosité. Toi, tu es vivante et toi aussi, parce que tu es dans l'apprentissage.
Ouais, la
de ta
dimension
vie.
A changé. La dimension de la chanson.
Ça me dépassait. Alors, je crois que ça a plu aux gens.
Il y a un autre duo qui a cartonné, évidemment, avec Attic. C'était 1, 2, 3, bien sûr.
Fatigué d'être la seule à dire je t'aime. Je me demande si un jour tu le diras.
Eh oui. Ça, c'était forcément un duo entre un homme et une femme, hein, puisque tu parles d'un couple. Tu demandes à ce qu'on
c'est
te dise.
C'est toi qui dis ça ?
Je t'aime. Un homme et une femme. Pour toi, en tout cas, oui. Enfin, ça peut être un homme et un homme. Je dis, le problème est le même, que ce soit deux femmes, deux hommes,
un
homme et une femme.
C'était une chanson de couple.
C'est des couples qui se disent pas suffisamment je t'aime. En tout cas, l'un a envie d'entendre l'autre lui dire je t'aime, et l'autre lui dit bah, je te le dirai pas. Alors, ça, si j'ai bien compris, c'est du vécu. Parce que tu nous disais tout à l'heure que celui
mais moi
qui
j'ai un cœur
vie,
de pirate. Et lui aussi.
Toi non plus, tu dis pas je t'aime.
Bah c'est plus moi hein, qui suis pas très très.
Donc c'est toi Attic dans la chanson en fait.
En fait c'est moi Attic.
En vrai.
C'est pour ça que je vais demander de lâcher ses cheveux pour brouiller les pistes.
Ah bah c'est ça.
De bien les boucler.
Il y a une petite moustache quand même, je crois.
Moi aussi, tu sais. Je fais des efforts quand je viens de voir,
ah oui,
tu
bah
sais
écoute,
seulement.
Ça se voit pas d'ici.
Non, non, mais blague à, blague à part, c'est une chanson effectivement qui est plus, qui s'inscrit plus dans une histoire de caractère et de tempérament. Il y a des gens qui sont très romantiques, qui sont très dans la, dans de, qui parlent facilement de leur, de leur, de leurs sentiments en fait.
Oui, c'est pas toujours les femmes qui disent je t'aime et les hommes.
C'est
qui
pas une
le
question de genre
pas
en fait. C'est vraiment une question de caractère et de tempérament.
Ouais.
Et je pense que c'est culturel aussi. Moi, je suis d'origine algérienne, mon mari, il est corse. T'imagines bien que c'est plus
c'est...
pourquoi tu restes.
Ouais, c'est plus la bagarre, quoi, c'est ça.
C'est pas la bagarre,
non, c'est
l'omerta.
On ne dit rien.
C'est la pudeur.
Ouais.
C'est la pudeur. Ouais. L'amour est là, les actes d'amour sont là. Il n'y a pas de question vraiment de profonde, en fait. Mais c'est vrai qu'il faut des sous-titres.
Non, mais
il
c'est
faut
ça,
des
c'est
sous-titres.
Que, c'est qu'il faut comprendre les silences.
Il faut comprendre
c'est
les silences. Il faut comprendre les.
Il faut savoir lire entre les lignes.
T'as tout dit. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux.
Il y a une autre collaboration dont j'avais envie de te parler ce matin, évidemment, parce que ça, c'est culte, c'est magique. Un très grand monsieur qui t'a écrit une chanson.
Sans lui, sans joie, je reste seul.
C'est pas culte, c'est la. C'est
mythique. C'est Charles Aznavour.
C'est le miracle.
Je sais qu'il t'aimait beaucoup. J'avais eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques années pour à l'époque dans 50 Minutes Inside.
Tu m'as jamais dit.
Et il te citait parmi les artistes préférés de la nouvelle génération. Et je sais que vous vous êtes beaucoup croisés, que vous avez beaucoup échangé. Ça a été quoi cette rencontre avec lui? Parce que je sais que tu l'écoutais petite déjà.
Ma rencontre, elle a commencé avec lui quand j'avais 4 ans. Et en fait, c'est trop. C'est pour ça que moi, Charles Aznavour, c'est mon miracle.
Ouais.
C'est-à-dire que depuis l'âge de 4 ans, c'est une obsession chez moi, écouter la voix de Charles Aznavour. Et en plus, vraiment, à une époque où il n'y avait pas les clips, où moi, je suis née vraiment sans le sou. Hein. Donc, je peux vous dire qu'il n'y avait ni poster, ni magazine, ni CD, ni cassette. Ni...
On n'allait pas regarder sur Internet non plus.
Ça n'existait pas chez
nous. Il n'y avait pas Internet. Non, il n'y avait pas encore.
Il n'y avait pas d'ordi. Et du coup, c'est comme si sa voix, elle a vraiment habité ma vie, mon âme, mon cœur depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est un des premiers artistes que je rencontre. Et la rencontre, elle est merveilleuse. C'est le premier artiste à qui je chante sa propre chanson,
ouais.
qui me rappelle derrière pour me dire « je vous ai écrit une chanson » et que j'ai croisé tout le temps. Comme, vraiment, c'est comme un miracle. C'est comme deux destins qui n'étaient pas faits pour...
Quand tu reçois le coup de fil et que tu as Charles Aznavour qui te dit qu'il t'a écrit une chanson, mais tu réagis comment? Tu crois que c'est une blague? Tu dis « c'est pas possible ».
Au début, j'ai cru que c'était un canular.
Hein. Ouais, tu croyais que c'était un imitateur. Ouais.
Et puis après, j'ai digéré la nouvelle et puis après j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. C'était vraiment faut comprendre que
oui, il était très important pour
que
toi.
Déjà devenir artiste c'était déjà dingue, c'était déjà gagner au loto 4 fois à la suite quoi, mais exister aux yeux de celui qui a éveillé ta flamme musicale, qui t'a donné envie d'écrire, qui t'a donné envie de chanter. Et même plus que ça, qui a fait partie de ton éducation. Moi, Charles Aznavour m'a éduqué à travers ses chansons. Il m'a éduqué, il a ouvert mon esprit. Il m'a initié à la philosophie, au dessin, à la littérature, à la peinture. En fait, dans ses chansons, c'était la vie, en étant seul comme ça sur ton lit dans ta chambre, tu peux explorer tellement de choses.
Il t'a ouvert des portes, quoi. En fait, c'est ça. Il t'a fait
les portes de mon esprit, en fait.
J'imagine qu'il te manque aujourd'hui.
Ah non, mais en fait, je te jure, je me permets de te tutoyer.
Vas-y.
Il y a 4 jours, mes enfants m'ont dit « Maman, maman !» Et je botte en touche hein, depuis des jours, depuis que le film est sorti sur Netflix, voilà, que moi j'ai vu au cinéma, que j'étais obligée de sortir de la salle avant la fin, tellement je chialais, je voulais pas gêner les autres. Et mes enfants veulent regarder le film parce qu'ils savent que c'est l'amour de ma vie. Il y a des cadres de lui chez moi, de moi et lui, de lui et moi, de lui tout seul. Il y a tous ces vinyles, tous ces CD. Enfin, franchement, c'est n'importe quoi. Et ils savent qu'en regardant le film, ils vont mieux comprendre aussi pourquoi j'ai ce lien-là avec lui. Et je démarre le film et je vous jure, en fait, mes 3 enfants, ils ont 4, 8 et 10 ans, ils ont fini tous autour de moi à me serrer dans leurs bras, tellement j'étais en larmes. Ça veut dire que c'est... Je peux pas expliquer
ce lien.
C'est
ta famille, en fait, c'est ta famille, ce monsieur, finalement.
J'ai pas pleuré de deuil ou du manque, quoi. En fait, je pleure à chaque fois que je le re-rencontre à nouveau, en fait, et que je me dis, mais c'est incroyable comment je suis liée à lui, en fait.
On va le re-rencontrer à nouveau parce qu'on va s'écouter un tube d'Aznavour maintenant. Je te propose Non, je n'ai rien oublié ou Hier encore, laquelle tu préfères? C'est difficile.
Ah, on est post. On est post Super Bowl Bad Bunny, Hier encore.
Allez,
parce que
Hier encore.
Je sais qu'elle est remontée bien sur iTunes.
Effectivement,
aussi,
parce qu'il y a un sample de
ouais, il a samplé Hier encore.
De Hier encore qui a été utilisé dans Bad Bunny, effectivement, la performance au Super Bowl. Et il paraît qu'aux États-Unis, on se met à redécouvrir Aznavour. Ouais. Il est très souvent utilisé par des rappeurs internationaux.
Bien sûr, Drake, le premier.
Parce que c'est extraordinaire. Extraordinaire. Hier encore, et c'est tout de suite avec Amel Bent. On se retrouve dans un instant. M-Radio.
Jusqu'à midi, Christophe Beaugrand sur M-Radio.
Amel Bent est avec nous sur M Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour parler de tout. Voici notre nouveau rendez-vous. Je vais te présenter notre médium. Il s'appelle Fabrice Sarret. C'est un vrai médium. Alors, je ne sais pas si tu y crois ou si parfois ça t'intéresse. Mais il a travaillé sur ton cas.
C'est sympa.
Avec ton prénom, ta date de naissance. Il a des petites choses à te dire. On va écouter. Tu vas nous dire si ça résonne en toi d'une manière ou d'une autre.
Bonjour Amel Bent. Je m'appelle Fabrice Sarret et je suis médium. J'ai étudié votre vibration personnelle. Je ressens une année de réajustement profond. Vous êtes en train de trouver un équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous autorisez pour vous-même. Je ressens que vous arrivez enfin, même si le chemin est encore long, à vous écouter de plus en plus. Et c'est très fort émotionnellement. Est-ce que cela vous parle ?
Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, ça, le fait de t'écouter davantage? Est-ce que c'est quelque chose qui résonne en toi?
Ah oui, bien sûr. Oui. Non, mais j'ai fait toute une promo autour de ça. Mais
ah oui, ah, d'accord.
C'est l'histoire de mon album.
Ah, c'est, oui, c'est ça, il a
mais c'est bien, Fabrice. Il est raccord, en tout cas.
Il est raccord, moi, ça correspond.
Ah oui, non, mais complètement. Après, je ne sais pas si c'est lié à moi, ma date de naissance. Peut-être la date de naissance. Je pense que c'est lié peut-être vraiment à un passage dans la vie.
Ouais.
Peut-être que l'histoire de la vingtaine, la quarantaine, tout ça... Moi, j'y crois pas trop parce qu'on s'est dit, hein, l'âge, c'est pas une science exacte. Ce qu'on est censé vivre ou ressentir à tel âge, à tel âge.
Non, mais on dit qu'il y a des symboliques, des passages.
Mais il y a des passages symboliques. Ouais. Les 20 ans, il se passe quand même quelque chose. Alors, je sais pas si c'est nous qui y mettons, qui sacralisons en quelque sorte des âges. Mais oui, 40 ans, moi, j'ai ressenti le besoin, en tout cas, de refaire le point, mais j'ai l'impression qu'on a déjà dit ça dans l'interview.
Oui, c'est vrai,
on a déjà dit
ça. Eh ben, on va...
En fait, Fabrice, il a écouté le début de l'interview, sa vision.
Je pense qu'il a écrit en speed.
Il l'a écrit il y a 20 minutes, là.
Il l'a écrit en speed. Eh ben alors, on va enchaîner. Ce soir, sur TF1, on va te retrouver ici.
C'est ton nom.
Le retour d'Amel à The Voice, nouveau casting, avec Taïk aussi qui nous rejoint. Lara Fabian, bien sûr, sera là. Et le taulier, Florent Pagny. Alors, tu avais commencé avec The Voice pour les petits. Hein, c'est comme ça que tu avais démarré.
Ouais.
Tu as fait 2 saisons, je crois, avec les kids.
Exactement.
Puis tu es passé aux adultes. Il faut quand même qu'on en parle. 6 saisons en tout. Tu n'as jamais gagné avec tes talents.
Si, j'ai gagné un The Voice Kids.
Ah oui, mais avec les grands.
Avec les grands, non.
Avec les grands, bah, pas encore.
Personne ne gagne jamais. Hein. Tu sais, les coachs ne gagnent pas.
Oui, c'est vrai. Mais un de tes artistes.
Moi, en tout cas, la plupart des artistes. Franchement, 90% de mes finalistes, aujourd'hui, ils bossent, ils vivent de la musique. J'estime qu'on a gagné.
C'est une grosse responsabilité, n'empêche. Quand tu te retrouves coach pour une émission comme ça, tu sais que si tu te retournes, tu peux changer le destin de quelqu'un.
Ah, clairement. C'est la raison pour laquelle j'ai mis tant de temps à me dire que c'était OK d'aller dans ce fauteuil. Hein.
T'osais pas au début ?
J'osais pas ni ça, ni jury, ni dans des émissions similaires où on m'avait fait des propositions.
Ouais.
Il y a déjà même bien avant The Voice. Hein. Parce que justement, le poids de cette responsabilité, d'autant plus que moi, je viens de là aussi.
Bah, donc, c'est ce que j'allais te dire. C'est hyper important pour toi, j'imagine, de les accompagner parce que tu as été de l'autre côté il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a une vingtaine d'années maintenant quand même. Mais tu sais que c'est hyper difficile quand on est de l'autre côté, quand tu étais à Nouvelle Star et que tu passais devant... Le
non,
jury.
Mais il y a eu tous les castings avant Nouvelle
Star. Et tous les castings. Ah oui, il y a eu d'autres castings avant.
Ah bah j'en ai fait un tas. J'en ai fait un tas et les gens ne sont pas toujours gentils. Et je pense que ce n'est pas toujours conscient. Ça reste aussi un peu du show, etc. Donc,
puis quand on voit passer plein, peut-être qu'il y a un peu d'usure
au
bout d'un moment.
Il peut y avoir une usure. Et puis je pense que les mœurs aussi ont évolué au sens où on a compris avec du recul qu'on pouvait aussi blesser psychologiquement, profondément aussi l'âme d'un artiste.
On était plus dur avant.
Ouais, plus cash, plus dur, c'était moins enrobé. Et puis c'est pas de l'hypocrisie, et puis c'est pas vivre dans le monde des bisounours que de dire les choses avec juste un peu de bienveillance et en se disant en fait la personne elle va retourner chez elle avec ce que tu lui as dit. Comment t'aimerais-toi rentrer chez toi avec
bien sûr.
avec ton rêve dans ton baluchon là.
Et qu'on ne te le détruise pas ton rêve, même si jamais tu ne vas pas au bout, qu'il y a une porte qui s'ouvre quand même, une petite lumière qui
reste
allumée.
Donner un conseil, c'est une bonne chose de conseiller comme on peut. Parfois on n'a pas forcément les mots ou les clés pour la personne, mais en tout cas que la personne reparte avec son rêve intact et de la bienveillance et puis encore beaucoup d'espoir quoi.
On parlait d'Aznavour il y a quelques instants, il était là dès ton passage à Nouvelle Star, évidemment.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là.
Ça, c'est l'extrait de ton passage à Nouvelle Star devant le jury, Marianne James, etc.
J'ai pas menti, hein, il m'a accompagné partout.
Ah, bah, il t'a accompagné dès le premier jour. J'ai l'impression que la voix, elle était déjà là, le talent était déjà là. T'avais quel âge donc là, 18, 19
17 et demi. Ouais.
17, t'avais pas encore 18 ans là.
Ouais.
C'est incroyable. C'était un énorme stress, là. Tu te dis que là, tu joues gros, à ce moment-là.
Je me rappelle, je sais pas pourquoi, alors que franchement, j'ai un périnée qui tient grave le coup, même après trois enfants, mais j'avais envie de faire pipi. Tu sais, c'est la première
fois
que
je... Pendant que tu chantais, là ?
Ouais, c'est la première fois que je vivais un stress comme ça. Et c'est normal, on n'est pas habilité à... Faut pas oublier que c'est une émission de télé. Ça veut dire, là, quand t'arrives, les gens, ils voient moi... Ils voient les membres du jury, mais moi je vois
aussi,
des
sûr.
Projecteurs pour la première fois, je vois des caméras pour la première fois.
Il y a les équipes techniques, il y a les journalistes. Il y a
les murs, c'est pas des vrais murs. Toi, t'as vécu ta vie avec des vrais murs. Là, tu vois que c'est des murs en plexi.
C'est des fausses cloisons.
C'est des fausses cloisons. Tout est bizarre. Même le bureau, je l'avais déjà vu à la télé parce que tu sais le desk là des
le bureau où il y a écrit Nouvelle Star où il y avait
du plexi.
Bleu,
tu vois les lampes à l'intérieur qui.
Tu vois le scotch qui dépasse et tout.
Il y a un côté.
Et ça t'a donné envie de faire pipi tout ça.
Non, mais en fait, je me suis rendu compte que limite, il fallait que je reconsidère ma capacité à. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de stressé à cette époque-là. J'étais plutôt une casse-cou.
Ouais.
Je pouvais me mettre à chanter dans le métro, en allant au lycée. Enfin, franchement, j'étais un peu une ouf, tu vois.
T'étais tout terrain.
Ouais, j'étais un peu une ouf. J'avais un côté un peu suicidaire, tu sais, un peu kamikaze.
Ouais.
Et j'avais vraiment pas peur. Moi, tu me disais chante, je me mettais à chanter n'importe où dans la rue et tout. Et là, pour la première fois de ma vie. J'ai compris que mes organes, ils n'étaient pas prêts, en fait. Mon cœur, il battait la chamade, mon périnée, il était en mode
là.
Meuf, ouais. Là, je ne vais peut-être pas pouvoir gérer pour toi, en fait.
Bon, finalement, ça s'est bien passé.
Ouais, bah ouais. Mais franchement, je me rappelle.
Mais t'es allé aux toilettes en courant après ?
Non, après, j'avais plus envie. C'est ça qui est
étrange.
Ah, d'accord.
Ah oui, c'était une.
C'est comme quand tu fais ton check-up, tu sais, qu'ils t'envoient le produit.
Ouais,
ils te disent avoir l'impression que vous faites pipi sur vous. Mais pas du tout, en fait. Bah voilà. Bah,
une fois que c'était passé, quoi. Incroyable.
Ouais, mais tout est remonté.
Bon, alors, en tout cas, dans la série Souvenirs de télé, parce que t'étais quand même tu as été à un moment donné une bête de télé, bah, tu as aussi participé à cette émission culte, la saison 3. Bien sûr, sur une samba, Amel Bent et
Christophe
Licata.
J'aime trop.
Alors, il paraît, tu dis que ça a changé ta vie, cette émission, c'est vrai ça ?
Ah ouais.
Mais comment ça se fait ?
Ben, en fait, vraiment, quand je rentre dans Danser avec les stars, on en a parlé aussi tout à l'heure en début d'émission, mais quand je rentre dans Danser avec les stars, moi, dans ma tête, pourtant, mon corps, il change hein, d'année en année, je fais un peu le yo-yo, etc. J'ai toujours un rapport à mon corps qui est conflictuel, un peu voilà, entre complexe et besoin de m'aimer à tout prix pour que je puisse accueillir aussi l'amour des autres, du public, qui est ma nouvelle vie, tu vois.
Ouais.
Et en fait, Danser avec les stars, ça a été... Le médicament, en fait. Christophe Licata a été le médicament. En fait, quand t'as quelqu'un qui te dit « Mais tu te rends pas compte ?»« Mais comment tu es belle ?»« Mais comment tu danses ?»« On dirait que t'as fait ça toute ta vie. » »« Mais je te jure, j'ai jamais vu ça. » En fait, je sais pas si tout était vrai dans ce qu'il disait, mais il m'a dit les mots que j'avais besoin d'entendre toute ma vie. C'est-à-dire que j'étais légitime à bouger, à danser, à utiliser mon corps comme une forme d'expression. Je n'étais pas qu'une voix sur pattes.
Mais c'est-à-dire que ça t'a réconcilié avec ton corps ? T'as appris à faire connaissance avec ton corps ?
Mais c'est même pas réconcilié. C'est j'ai découvert que mon physique, non seulement avait le droit d'exister, et que surtout, je pouvais m'en servir sur scène. La tournée qu'a suivi Danse avec les stars, j'étais en mode chorégraphie. Mais même, tu sais...
Mais t'oses être sexy, en fait, c'était ça.
C'est pas forcément... c'est pas sexualiser mon corps.
Ouais.
C'est que mon corps devienne une extension de mon expression musicale, en fait.
Je comprends.
Si je chante une chanson triste... Moi, je me rappelle, ma grand-mère, paix à son âme, elle se foutait de ma gueule. Tu sais ce qu'elle me disait quand elle me regardait chanter ?
Ouais.
Elle me disait, mais pourquoi t'es courbée comme ça, on dirait l'idée de Piaf ?
Avec
Edith Piaf qui était malade, quand même, d'une maladie d'arthrose de ses os. Moi, pas.
Ouais.
Donc elle me disait, pourquoi t'es comme Edith Piaf, t'es toute bloquée là. Parfois elle me disait, regarde, ça se voit que tu manges mal. Chimène Badi, quand elle chante, elle tient son micro comme ça, toute la chanson. Toi t'es là, t'étais pas sereine, tu vois. Et mon corps n'arrivait pas Tu sais, j'avais pas d'ouverture, même mes doigts étaient toujours atrophiés quand je chantais.
Et là maintenant, tu respires grâce à Danse avec les Stars?
Quand je suis un peu trop en transe, c'est-à-dire quand je suis un peu trop connectée à mes émotions, tout à coup, mon corps, par contre, il se...
Donc tu redeviens l'Edith Piaf.
Je redeviens l'Edith Piaf.
L'Edith Piaf.
L'Edith Piaf. Mais quand j'ai une chanson qui me le permet, ouais, qui me demande pas d'être aussi autant dans mon chagrin et dans une mélancolie de ouf, eh ben j'arrive à avoir des jolis gestes, j'arrive à avoir un joli port de tête. Et ça, je le dois à Christophe Licata, je le dois à mon passage dans Danse avec les Stars. Mon corps devient une extension de mon expression musicale.
Ben on va voir ça sur scène bientôt.
Et vous n'êtes pas prêts.
Mi-avril,
Edith Piaf,
ça commence.
Qu'une fois sur quatre. Le reste, ça s'ouvre.
Il y a des chorés prévues, il y a des choses prévues
Non, je ne fais plus trop de chorégraphie parce que vraiment, ça m'empêche. La chorégraphie, vraiment, c'est quelque chose... En fait, je n'ai pas le répertoire pour... En vrai, c'est ouais, juste ça.
Oui, t'as quelques chansons dansantes, mais
en fait,
pas énormément.
Voilà, tu vois, ça me coûterait trop cher de former des danseurs pour deux chansons, en fait. Tu vois.
Mais en tout cas, t'envisages la scène différemment depuis cette émission, ça c'est sûr. Tu occupes la scène différemment.
En tout cas, mon corps a le droit d'être, a le droit d'exister. Peu importe si j'ai pris 10 kilos, si j'en ai perdu 15, on s'en fout. Mon corps fait partie de ma musique et de mon expression.
Ouais, c'est un autre instrument, scénique, en fait.
C'est un instrument de plus. Ouais. Et je l'ai senti avec Christophe Licata quand j'ai commencé à pleurer en dansant.
Ouais.
Je ne chantais pas. Et pourtant, je vivais la musique à travers mon corps, mes muscles, mes cellules. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir ressentir ça.
Restez avec nous, on revient dans un instant avec les chansons du grenier. Tu vas voir, j'ai trouvé des pépites rien que pour toi, Melbeth. M-Radio,
M-Radio. De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M-Radio.
On est de retour sur M-Radio dans Bienvenue chez Beaugrand avec l'exceptionnel Amel Bent. C'est l'heure de la séquence la plus dangereuse de l'émission, accroche-toi. Les chansons du grenier. J'ai une collection de disques assez étonnante avec des pépites, des raretés, parfois même des remixes. Alors, est-ce que tu savais que tu avais été remixé même récemment par un DJ qui s'appelle Mila Twix? Eh bien, Mila Twix peut nous faire danser sur Pourquoi tu restes, la preuve.
Dis-moi pourquoi tu restes.
Ah, mais j'aime bien.
Si t'étais vraiment honnête.
Tu vois qu'à pouvoir danser sur scène finalement.
Sur les tables.
Alors là, on va. Écoute, là, tu vas voir, ça va encore plus dans le boom boom. Ça marche bien, n'empêche.
Mais j'aime trop.
Ça, tu t'y attendais pas à celle-là? Non, tu n'avais pas entendu encore?
Non, je l'ai jamais entendu celle-là.
Mais alors, ça, c'est génial. Visiblement, tu inspires beaucoup. Il y a également une version Zouk.
Celle-là, je l'ai entendue, je l'ai repostée. J'aime trop.
Elle s'appelle Rohan, celui qui a fait ça, le remixeur. Écoute.
Mon amour, t'es plus l'amour. Pourquoi tu restes?
C'est la chanson de la réconciliation, quoi.
Ah oui.
Version réconciliation.
Là, c'est quand tu reviens, là. Hein. Là,
ah ouais,
on comprend pourquoi il reste. Hein,
ah
là,
ouais.
Là, il y a un petit punch. Tout se passe très bien. On sort lunettes de soleil, etc. Bon, on a parlé de ton tube Jusqu'au bout avec Imenes en 2020. Lui aussi, il a été remixé. Un DJ qui s'appelle Phasing Finger. Étrange. On y va. Donc, tu vois que finalement, tu peux avoir un répertoire qui fait danser.
Ah non, mais là, tu m'as donné envie d'aller au Mexique. Ah ouais!
Là, c'est
M pour Mexique, M Radio.
Là, je me demande que c'est plutôt une boîte un peu plutôt dans
Est. Ouais, Ibiza, Lituanie.
Voire Allemagne de l'Est.
Ah ouais?
un truc un peu comme ça. Alors, l'intelligence artificielle aussi a fait des choses assez étranges. Il y a une nouvelle version de Ma philosophie. On a un peu repris ta voix. Écoute ce que ça donne.
Moi, je lèverai le poing encore plus haut.
Encore plus loin.
Viser la lune.
Ça me fait pas peur.
Très ethnique, quoi.
C'est quand même assez incroyable. Hein. Et ça, c'est de l'intelligence.
Par contre, ça ressemble pas à ma voix du tout.
Évidemment. Non, ça ressemble pas
à ta
voix.
Mais par contre, j'aime trop le délire. C'est très Camélia Jordana, je trouve.
Et puisqu'on parle d'intelligence artificielle, tu savais que tu avais été reprise par Mylène Farmer déjà?
Alors, est-ce que c'est ton nom?
Exactement.
C'est ma tante qui me l'a envoyé. Elle m'a dit la chanson, elle aurait été mieux avec Mylène Farmer. Mais j'ai qui est très soutenante.
Je vais vous faire écouter.
Non, elle m'a pas dit ça.
Pour ceux qui n'auraient jamais entendu cette version, donc ta chanson s'appelle Ton Nom. Et écoutez, la voix de Mylène Farmer a été reproduite. Elle ne chante absolument pas cette chanson.
Bah, laisse un mystère.
Bah, alors peut-être c'est elle. Alors écoutez,
peut-être
a priori,
c'est Mylène.
Je crois que c'est de l'intelligence artificielle, mais écoutez.
Et si jamais je dois tout oublier.
J'adore.
Si le temps devait.
C'est trop beau. Ça lui va trop bien. Mylène, si tu nous écoutes, franchement, il y a un feat à faire. Hein.
T'as jamais fait de feat avec Mylène? Tu l'as déjà croisé?
Mylène n'a jamais fait de feat.
Ben non.
Si, avec Syl.
Et avec Raled, une fois.
Ah ouais.
La poupée qui fait non, il y a quelques années. Non, mais c'est vrai que c'est étonnant d'imaginer, mais ton univers s'adapte très bien avec le sien.
Ouais, ça marche bien. Ça m'avait ému.
Ouais, c'est une belle
version. C'est une très belle version.
C'était il y a 2 ans, ça, comme quoi tout est possible. Dans un instant, on va découvrir tous tes secrets, si tu es d'accord. Et on va en profiter pour écouter Mylène pour de vrai avec, tiens, bah, les mots, le duo avec Syl, par exemple.
Incroyable. Le radeau.
L'univers, c'est mystère. Oui, le radeau, le clip.
Le radeau.
Ouais, je chante très bien.
De la méduse.
Ah, exactement, à tout de suite. La méduse, c'est Mylène.
M-Radio, M-Radio.
Tous les samedis, 10h midi. Bienvenue chez Beaugrand avec Christophe Beaugrand.
Et avec les secrets d'Amel Bent à présent, parce que je vais te faire dire ce que tu n'as peut-être jamais dit. Et comme on parle de secrets, c'est la voix qui me fait le jingle.
Ici la voix. Il est l'heure de découvrir les secrets de l'invité dans Bienvenue chez Beaugrand.
Quel est ton petit rituel ou ton cri de guerre avant d'entrer sur scène? Je suis sûr qu'il y a un truc. Alors c'est silencieux visiblement. Vous êtes bien sur M-Radio. Non, t'en as pas?
Non, si. Mon rituel, c'est de chanter au moins 30 fois à la suite la première phrase du show. Ma première... ça, tu vois, il y a mon attachée de presse, Coralie.
Elle rigole,
qui,
là, oui.
Ouais, qui rigole. Non, elle qui sait. Fait oui, mais on ne sait pas si elle aime bien ou si elle n'en peut plus.
Donc, si tu chantes la première phrase...
Par exemple, si je vais rentrer sur scène avec ma philosophie, je n'ai qu'une philosophie, je vais... Je n'ai qu'une...
Ah oui, une machine.
Hey, je n'ai qu'une... Je vais le faire 50 fois jusqu'à ce que... D'accord. Comme ça, je soigne mon entrée, tu vois.
Et t'as jamais eu, justement, après l'avoir fait 50 fois, le trou de mémoire au moment d'arriver sur scène?
Non. Par contre, mes musiciens et tout, parce qu'ils sont tous dans les ears avec moi.
Dans les oreillettes.
Alors, le public n'entend pas, heureusement. Mais eux, parfois, ils se moquent de moi. C'est-à-dire, j'ai commencé la chanson, eux, ils font « Je n'ai que... »
Ah ouais, ça peut faire un remix, ça, c'est pas mal.
Ah, Melvin, elle nous a tués.
Donc, tu as 3 enfants, 2 filles et un petit garçon, maman accomplie. Quel est ton secret pour mener de front vie de maman et vie de star? Enfin, de chanteuse, en tout cas.
Un père.
Ah oui, et un père qui bosse beaucoup.
Qui
tient son rôle de père.
Exactement. En fait, c'est étrange que tu parles de ça, mais tu sais, c'était une de mes plus grandes angoisses. Je l'ai beaucoup exprimé sur mon premier album post-première grossesse.
Ouais.
D'ailleurs, j'ai plus voulu chanter, plus rien faire, parce que pour moi, en fait, devenir maman, ça pouvait pas être compatible avec le public. Merci beaucoup.
Avec une vie de chanteuse.
Avec une vie de chanteuse. Maman, c'était maman. Chanteuse, c'était chanteuse. C'était l'un ou l'autre. Les
c'est
deux.
Plus de tournée, quoi.
Mais tu sais, c'est comme moi, j'ai eu une mamie veuve. J'ai été élevée par une grand-mère veuve, donc j'ai jamais connu mon grand-père. J'ai pas eu mon papa, moi. C'est ma maman qui m'a élevée. Mm-hmm. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais le mindset. D'une femme célibataire.
Ouais.
Donc en fait, j'ai eu les angoisses d'une mère solo.
Sauf que tu l'étais pas.
Sauf que je ne l'étais pas. Et en fait, c'est par la pratique que cette angoisse a disparu. C'est que je me suis rendu compte que y avait un papa, en fait.
Et qui faisait le boulot.
Et que quand il y a un père, maman, elle peut continuer à travailler, elle peut continuer à être sereine quand elle va bosser, etc. Mais la chance que j'ai, c'est
Philippe.
Il s'appelle Patrick, mais...
Patrick.
Mais peut-être,
pardon,
mais peut-être Patrick. Philippe, il nous aide et on ne sait pas.
Pardon, excusez-moi.
Merci Philippe.
Pardon, mais... ça commençait par un P.
Non, mais c'est
c'était
pas grave,
la bonne. Patrick, mais je parlais de Patrick, évidemment.
Ah oui, non, mais bon, écoute, si tu veux chercher la merde dans mon couple, il va dire c'est qui Philippe? Hein, t'as parlé avant d'un Philippe avec lui?
Pardon, Patrick, bien sûr.
C'est Philippe, non, c'est le voisin, tu sais.
Ah merde.
Pas du tout. Non, mais
non,
c'est Patrick, mais peut-être voilà.
Ben non, mais a priori oui, c'est
peut-être ça. Toi, c'est grâce à Philippe que t'en sors. Moi, je sais pas.
Mais c'est
je te renvoie la balle.
C'est
hein.
Le prénom de mon père. C'est peut-être pour ça. Ça doit être un acte manqué. Il y a un truc.
Ah oui, à nos actes manqués. Je la connais la chanson.
Quel était ton plan B si la chanson n'avait pas marché?
Alors, je pense que ça a marché parce qu'il y avait pas de plan B.
Ah, c'est pour ça.
Mais par contre, j'avais une autre passion dans la vie, qui est toujours ma passion. J'aime, c'est bizarre, il faut le dire avec beaucoup de respect parce que c'est des histoires atroces, mais moi je voulais étudier les psychopathes, les serial killers.
D'accord.
Je rêvais d'être profiler aussi. C'était l'un ou l'autre.
Ah oui.
C'était l'un ou l'autre. C'était
en tout cas, si jamais ça avait pas été chanteuse.
Non, j'aurais tout fait pour être chanteuse quand même.
Ouais. Chanteuse profileuse, tout est possible.
En fait, si j'avais été profileuse, j'aurais été genre Anna Montana, tu vois. J'aurais catché les serial killers la journée et j'aurais été chanter la nuit dans des cabarets, tu sais.
La double identité, bien. Vrai ou faux, tu as voté pour Ambre à la finale de la Starac?
Je ne vote pas.
Ouais.
Mais tu par contre, c'était ma star.
Ah
c'est
ouais.
Ma star.
Et écoutez ce duo.
Je croyais tout savoir de nous, être arrivé jusqu'au bout et tenir si bien.
t'as eu un coup de cœur hein, pour cette chanteuse.
Ah, j'ai eu un coup de cœur.
Il y a eu un truc hein, qui s'est passé.
En fait, c'est dans le regard. Tu sais, quand tu chantes en regardant quelqu'un dans les yeux,
ouais.
Tu vois son âme, en fait. Et moi, quand j'ai chanté Le droit à l'erreur avec elle, et en plus, la vie a fait que c'est dingue. Moi, j'ai ma coach vocale, elle s'appelle Géraldine Alouche. Et deux jours avant ce prime de la Starac, je l'appelle pour lui dire « Ouais, j'aimerais bien qu'on bosse un petit peu, putain, je vais chanter Le droit à l'erreur, ça fait 1000 ans et tout. » Et moi, la Starac ne m'avait pas dit avec qui j'allais chanter. Pour des raisons de confidentialité, ils ne te disent pas tout de suite.
D'accord.
Ils te disent « Tu vas chanter, bah, évidemment, ça va être une putain de chanteuse ou un putain de chanteur, tout va bien et tout ça, machin. »
Mais t'as pas l'info tout de suite.
J'ai pas l'info tout de suite. Et Géraldine me dit, ah, c'est incroyable que tu y ailles et tout. Tu sais que j'ai une de mes petites élèves avec qui je bosse depuis 10 ans, que j'ai eu petite en cours et tout. C'est Ambre et tout ça. Je dis, ah, trop bien, bah, peut-être que je la verrai.
Ah, c'est drôle.
Et, du coup, c'est et la veille, on me dit, tu chantes avec Ambre. D'accord. Donc en plus, j'avais ce lien-là qui est Géraldine, que j'adore. Et bon, voilà, je vous raconte cette anecdote parce que c'est toujours bien de.
Mais non, mais c'est intéressant. Et maintenant, on est impatient d'entendre ce qu'elle va chanter.
Hâte, et elle est trop chou parce que j'ai rechanté avec elle en demi-finale.
Ouais.
Et elle m'a fait un message extraordinaire hier en me disant que merci, que. Enfin, voilà, elle m'a remercié pour les moments qu'on a passés ensemble. Et je trouve ça classe de sa part de Voilà.
Bah oui, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et puis il y a la tournée. Déjà,
j'adore, elle est tellement ambitieuse. Vite, hein. Je vais m'appeler Amber pour ma carrière à l'international.
Ah, mais ouais, c'est génial.
Moi, elle me fait rêver, cette gamine.
T'aurais envie, pourquoi pas, de travailler avec elle, de lui écrire une chanson? Je sais pas si.
Moi, j'ai pas encore écrit de chanson pour personne dans ma vie. Pourquoi pas. En tout cas, chanter avec elle, c'est une évidence. Ouais. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est tout. Pour le moment.
Amel Ben, tu restes avec nous à suivre la bande originale de ta vie juste après ça.
M-Radio, M-Radio.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M-Radio.
Toutes les semaines, on refait la vie de notre invité. C'est Amel Ben ce matin, évidemment, qui est là jusqu'à midi avec quelques petits extraits sonores qui t'ont marqué. Tu nous as donné les infos avant, donc on a déjà préparé un peu de musique. Le premier disque français que tu as acheté, tu nous as dit que c'était un double album. De Charles Aznavour, évidemment.
Bien voir les comédiens, voir les musiciens.
Donc c'est lui qui t'a tout appris.
Ah ouais, c'est sûr que le jour où t'as quelques francs à l'époque en poche, tu t'achètes le disque de l'amour musical de ta vie. Moi, j'avais une pauvre cassette que j'avais défoncée à force de l'écouter.
C'était même pas un CD, c'était une cassette.
Les 40 chansons d'or de Charles Aznavour. Putain.
Et au bout d'un moment, la bande, des fois, elle fait...
Ah, elle en pouvait plus.
La cassette,
parce que tu sais, tu mets Réo. Réo. Tu sais, quand t'aimes trop une chanson, le Réo, il abîme trop la cassette.
Ouais. C'est ça revient en arrière. Le générique de dessin animé de ton enfance. Comme quoi, elle chante bien, même le générique de Boum Boum. Oh non, mais c'est génial. Là, même Bumbo, ça prend une dimension, c'est incroyable. Tiens, le petit plaisir coupable, la chanson de Dossier, on a tous dansé dessus. Hein, là. C'est même pas coupable.
Ouais, pour moi, c'est pas coupable. Mais c'est que j'aime trop la dance.
Mais t'aurais pu en faire.
Mais est-ce que tu te rappelles les Dance Machine parties?
Bien
1,
sûr,
2,
Dance
3.
Machine, je me rappelle très bien. Avec les jumeaux.
Ah non,
machines.
Mais un truc, bah, Charlie et Lulu. Ah non, elle avait les deux autres jumeaux. Ils ressemblent à Thibaut InShape.
Hervé et Yves Noël. Thibaut InShape.
C'était Thibaut and Shape.
Mais exactement. Et oui, où il y avait Two Unlimited, il y avait
quoi,
Culture Beat.
Corona. Tu te rappelles, Mister Machin.
Capella.
Oh là là. Et je me rappelle, moi, à l'époque, ma mère, elle s'était mise avec mon beau-père, j'avais des demi-frères et sœurs du jour au lendemain. Et dans ma chambre, en fait, on avait mis plein de matelas par terre, on dormait comme ça. Et quand c'était les Dance Machines, on sautait sur les matelas. J'ai des souvenirs. C'est les souvenirs d'enfance. On n'arrêtait pas de sauter, ça puait la transpiration dans la chambre, tu sais. T'es jeune ado.
Bah, c'était le zénith, en plus, ils étaient à fond.
Ah
hein,
non,
donc,
mais
aller,
laisse tomber. Let's go and meet a race in the sky. Tu te rappelles pas de ça?
Mais pourquoi t'as pas fait de dance? T'aimerais pas faire un featuring avec, je sais pas, David Guetta?
Parce qu'en fait, c'est l'époque où, juste au moment où peut-être je m'apprêtais à devenir une star de la dance dans ma tête, j'ai découvert le R&B.
Ah oui, je comprends.
C'est vraiment la fin des années 90, début 2000.
Et oui, ça a un peu envoyé balayer la dance. Mais ça revient.
T'écoutes Brandy, t'écoutes Boyz II Men.
Ah bah oui,
putain,
Brandy après, et Monica.
Tu grattes un peu Stevie Wonder.
Ah, c'est pas mal.
Et là, tu refais tout. Là, tu te dis, mais en fait, ça y est, j'ai compris ce qui me plaît, en fait.
Bon, la chanson qui te fait danser le samedi soir, là, c'est une chanteuse française qu'on adore.
Aime-moi doudou, aime-moi doudou, montre-le-moi doudou, t'es mimi.
Donc c'est Aya Nakamura.
Mais tu sais pourquoi j'ai choisi cette chanson? J'aurais pu choisir plein de chansons. Moi j'adore danser, je danse ma vie, moi, tout le temps. Je
maintenant,
danse.
Mais j'ai bien compris, Christophe Licata, t'as débloqué là.
Ah non, mais en tcha-tcha-tcha, même pendant que je fais la serpillière. T'as pas compris.
Il a débloqué.
Mon nouveau partenaire, c'est mon ballet et ma serpillière. Et, ah ouais, je fais des samba avec mon ballet, tu sais même pas, toi. D'ailleurs, je vais commencer à faire des vidéos pour TikTok, vous allez voir.
Et pourquoi Doudou alors? Et
parce qu'en fait, ce que je trouve la force d'Aya Nakamura, c'est qu'elle fait des chansons où t'as pas besoin ni de partenaire, ni d'être dans une boîte de nuit, ni d'être avec du monde. En fait, elle te fait danser à l'intérieur de toi-même.
Ah, et dans ta bagnole, t'es assise,
c'est
tu
une
danses.
Danse inter... Non, mais t'es là, je suis assise, tu me la mets. En fait, ça danse à l'intérieur de moi.
On peut remettre Doudou pour vérifier.
Tu sais, elle te fait danser à l'intérieur. En fait, c'est un truc de selfish. C'est de la danse presque... c'est une ode à se faire danser tout seul, en fait. Et c'est ça que je trouve incroyable. C'est ça que j'aime chez elle. C'est qu'elle te met dans un mood où tu fermes les yeux et tu peux t'imaginer n'importe où, tu t'en fous. Tu t'imagines même pas, t'es là où tu es et tu danses en toi.
En tout cas, ça cartonne à l'international. Il n'y a pas qu'en France que ça marche.
En tout cas, ça cartonne en moi.
Ça cartonne en toi, ça c'est sûr.
C'est ça que j'ai envie de dire.
Et la chanson préférée de tes enfants, tiens, c'est Yannick Noah.
Mais tu sais, les liens.
Je leur ai demandé quand on m'a envoyé l'interview, enfin les questions.
Ouais.
J'ai dit à mes filles, c'est quoi votre chanson préférée? Mais maman, on en a plein. Je dis celle de maintenant, du moment. Elles m'ont dit les Lyon, Yannick Noah. J'ai dit ok.
Eh ben voilà. Les Lyon, Yannick Noah.
En fait, c'est les chansons aussi qu'elles apprennent à l'école. Elles font beaucoup de chants, de chorale à l'école.
Ah.
Et donc, c'est ce qu'elles apprennent en ce moment. Donc,
elles
c'est
vont
vraiment
faire carrière aussi, à ton avis? T'as pas envie? T'as pas envie qu'elles soient chanteuses?
Il y en a une qui va être neurologue ou pongiste et l'autre qui va être peintre ou peintre. Donc, franchement.
Peintre en bâtiment ou peintre
C'est pour ça que j'ai dit peintre ou peintre.
Ah, d'accord.
On ne sait pas trop.
Ah, d'accord.
Soit va faire de
c'est
l'enduit.
Léonard de Vinci ou Monsieur Goncalves.
Oh, c'est tellement raciste de dire ça.
Non.
Alors que le mec qui m'a fait mon ravalement s'appelle vraiment Monsieur Goncalves. Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas du tout en plus. Pas du tout.
Allez, Amel, dans un instant, on répond aux questions des auditeurs. Peut-être Monsieur Goncalves sera là. À tout de suite.
M-Radio, M-Radio.
Jusqu'à midi, Christophe Beaugrand sur M-Radio.
On a lancé un appel, ma chère Amel Ben, sur les réseaux sociaux de M-Radio pour avoir des questions de la part des auditeurs. Et donc, c'est leur moment maintenant. Ils nous ont envoyé des messages sur notre boucle WhatsApp. Pour faire de même, c'est facile. 06 95 094 094. Écoute le message enregistré par Samuel.
Salut Amel, je te suis depuis longtemps. J'ai hâte d'être au concert. Est-ce que tu as prévu des choses spéciales puisque ce sont tes 20 ans de carrière? Merci.
Alors oui, c'est même plus que 20 ans d'ailleurs. Hein.
C'est 22.
Alors, est-ce qu'il y a des choses prévues
C'est pas peine de mettre de
particulière.
Piquer, hein.
Non, mais tu fais moins, il n'y a pas de problème.
Tu fais moins, beaucoup moins.
Tellement moins.
Ah, tellement. C'est le postif.
Alors, il va se passer des choses ou pas? C'est pas des vraies choses, ça?
Je vais poster mon Get Ready With Me pour aller voir Christophe Beaugrand. Je me suis filmée aujourd'hui quand je me suis faite belle pour te voir.
Ah, génial.
Donc tu vas voir que...
Je vais voir que la tête avant ne ressemble pas du tout.
Voilà, tu vas vraiment passer de la meuf qui danse avec son ballet... Ah, la meuf qui danse Doudou sur le fauteuil rouge.
Mais c'est très bien, ça marche.
Oui, ça marche.
Alors, qu'est-ce qui va se passer sur scène? Est-ce que tu peux nous donner un
bien
petit peu...
Bien sûr que ça va être très
nous
spécial.
Nous donner un petit peu envie, je ne sais pas.
Non, mais déjà, au niveau de la setlist, c'est sûr qu'il y avait deux options. Une tournée, elle est le reflet de l'air de l'album que tu es en train de défendre. Mm-hmm. Donc moi, c'est Minuit Une. Puis je me suis dit, putain, c'est à la fois la tournée de Minuit Une, mais en même temps, c'est la tournée des 20 ans.
Ouais.
Et je crois que cette notion-là, elle a pris le dessus. Et je me suis dit, j'ai tellement envie de rechanter des chansons que je chante plus parce que c'est plus l'album à 20 ans, parce que c'est plus Un jour d'été, parce que c'est plus ou l'album Où je vais, parce que c'est plus l'album Instinct, parce que c'est plus l'album Demain, parce que c'est
Il y a quand même des chansons que tu chantes toujours en concert, j'imagine. On parlait de ma philosophie,
par exemple. Il y a des impondérables.
Mais
c'est
là,
qu'on dit.
Là, t'en ressors, oui, exactement, des inévitables. En tout cas, là, t'en ressors certaines.
Non, là, je ressors des chansons qui sont vraiment pas des chansons obligatoires à un concert d'Amel Bent. Mais c'est des chansons qui sont obligatoires pour fêter les 20 ans.
Mais ils vont être trop contents alors là, tous tes fans, ils vont être
en folie.
Je bosse
tellement comme une folle de toutes ces dernières semaines, j'arrête pas.
Là, il reste quelques semaines, il y a encore beaucoup de répétitions de prévues, il y a plein de choses à régler
tous
encore.
Les jours. Non mais déjà, je travaille. Déjà, moi, il faut savoir que j'ai écrit ma setlist il y a des mois.
Ouais.
Avec les bascules de lumière, la tenue que j'ai dessiné une tenue que j'ai envoyée à un créateur.
Donc, tout est très clair dans ta tête depuis
les
longtemps.
Les couleurs.
Ouais.
Les talks. Les talks, tu sais, c'est les moments où on parle.
Ouais, les moments où
enfin,
tu parles
sais,
entre les chansons. Voilà. Parce que
qu'est-ce que j'ai envie de dire, pourquoi
le public, ouais.
Comment j'ai... Chaque spectacle, je l'écris avec comment je passe d'une chanson à l'autre, comment je passe d'un mood à l'autre durant le concert, comment je fais vivre mon histoire.
Voilà, comment tu enchaînes les chansons, quelles chansons
parfois,
tu
ça a été de la chronologie.
Bien sûr.
Voilà, parfois, ça a été en fonction des thèmes ou en fonction des sonorités. Là, je prépare vraiment quelque chose que j'ai jamais fait avant.
Ouais.
Et surtout, je déterre des chansons et peut-être les invités qui vont avec.
Ah, mais c'est la question que j'allais te poser. Il va y avoir des guests.
En fait, il va y avoir trop de surprises. En fait, vraiment.
Il faut pas tout dire, alors évidemment.
Voilà, évidemment, je ne vais rien dire, mais.
Mais on comprend qu'il y aura, en tout cas, pour
c'est
les.
C'est ma setlist la plus ambitieuse en 22 ans.
C'est génial.
C'est, j'ai mis la pression à toutes les équipes, que ce soit la lumière, le son, les chœurs. Tout a été, tout est travaillé, les tenues, même les cheveux, même la wig, elle est faite à la boucle.
C'est. Wig, ça veut dire perruque en anglais.
Voilà, tout va être. Aux petits oignons, je ne veux pas fêter ces 20 ans n'importe comment, je veux que ce soit.
Ah oui, là, je sens que tu t'es mis la pression. Hein, donc, je pense que ça va.
Je me suis mis l'objectif.
Ça nous donne très, très envie. Tiens, question de Guillaume maintenant.
Bonjour Christophe, salut Amel, c'est Guillaume de Perpignan. Voilà, je suis trop content de te retrouver pour la nouvelle saison de The Voice. Et à ce sujet, j'avais une question. Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote que tu as vécue sur le tournage avec les coachs pendant le tournage de l'émission? En tout cas, voilà, je suis trop trop content de te retrouver et j'ai hâte d'écouter ta réponse. Bisous à vous deux.
Voilà Guillaume, alors est-ce que tu as un petit souvenir du tournage là de cette saison?
Déjà bisous Guillaume, pardon. Il y a tellement d'anecdotes, je ne sais pas quoi vous dire.
Ça se passe bien, Taïk qui arrive dans la
bande.
Ah non,
mais vous allez voir, vous n'êtes pas prêts en fait.
Ah oui ?
En fait, les gens, la France n'est pas prête.
Pourquoi, qu'est-ce qui va se passer ?
Pour Taïk. Ah non, mais Taïk, c'est en mode Jimmy Fox, en mode Will Smith, en mode Jim Carrey.
C'est le show alors ?
En fait, c'est à l'américaine. Je ne peux pas vous dire que. Et c'est vraiment, ce n'est pas péjoratif, c'est dans le sens le plus positif qui existe. Il se lève, il chante,
donc
il danse.
On va pas s'ennuyer, quoi, c'est ça.
Ah non, mais il est drôle et tout. En fait, c'est cool parce que ça a un peu bousculé aussi un peu tout le monde. Parce qu'il est tellement. Il est tellement.
À fond, c'est ça?
Mais dans tout! Dans tout! Quand il aime pas, quand il aime, quand il faut chanter, quand il faut danser, quand il faut avoir un talent. Et du coup, bah, ça pousse tout le monde à se battre un peu plus, à sortir encore un peu plus de ses gonds, à affirmer encore plus sa personnalité. Bon, Florent, lui, ça bouge pas. Florent, c'est j'adore comment tu chantes.
C'est la machine, Florent.
Tu ne viendrais pas gagner chez moi.
Ah bah oui.
Salut.
Oui, je vois.
Il va gagner encore, je suis sûr. C'est ça le pire. Même si ce n'est pas les coachs qui gagnent. Mais...
Et Lara, ça l'a un peu challengé alors du coup ?
Lara, alors franchement, j'ai déjà fait une saison de The Voice avec elle, ma première saison des adultes.
Ouais.
Et d'ailleurs, je lui ai dit, je peux me permettre de le dire ici parce qu'elle sait à quel point je l'aime. Mais je ne sais pas si c'est le fait d'avoir retrouvé aussi le public français de manière complètement démesurée ces dernières années. J'ai senti qu'elle avait, je sais pas si on peut, quand on est une diva comme elle, encore plus prendre une autre dimension. Et je sais pas ce qu'elle a vécu ces 3-4 dernières années, en tout cas depuis que je l'avais laissée de ma première saison d'adulte, mais elle est démesurément iconique. Voilà,
elle va là. Être diva, divine.
Elle est. Toujours plus intelligente, toujours plus talentueuse, toujours plus poète, toujours plus...
En tout cas, tu nous donnes vachement envie de regarder, là, hein. Franchement.
Et Florent, toujours plus libre, toujours plus direct.
Et toi, toujours plus quoi ?
Toujours plus casse-couille, moi. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, 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 moi, je suis toujours plus moi.
Et ben voilà, Steven a un message pour nous.
Salut Christophe, salut M Radio. Voilà, je voulais tout simplement dire qu'Amel, ouais. On t'adore et qu'on espère très vite te retrouver, que ce soit sur nos écrans, à la radio ou sur scène. Gros bisous.
Et voilà, c'était juste un petit bisou, il n'y avait même pas de questions, Steven. Ouais, très hâte de te retrouver.
On aime l'amour gratuit.
Et on va te retrouver sur scène aussi. On te retrouve dans un instant pour les tubes de ta vie.
M Radio, M Radio.
De 10h à midi, Christophe Beaugrand sur M Radio.
Avec Amel Bent qui est avec nous jusqu'à midi, toutes les semaines on remonte le temps. J'ai regardé les dates de ta vie et j'ai essayé de trouver les chansons qui correspondaient pour voir si ça te rappelle quelques petits souvenirs. Par exemple, le 21 juin 1985, un jour de fête de la musique, c'est pas un hasard évidemment. Et de l'été évidemment. Quel était le tube numéro 1 à l'époque, le 21 juin 85?
Tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents.
Bibi.
Ça me fait trop penser à Chouchou.
Énorme tube de Bibi, 23 semaines dans le top 50, près d'un million de 45 tours vendus à l'époque. Énorme carton en Europe aussi. T'as jamais chanté ça
Jamais.
Tout doucement. Elle est géniale.
Non, mais elle est magnifique cette chanson, cet artiste aussi.
18 mars 2004, c'est la diffusion du premier prime de la nouvelle star.
Arrête !
Premier prime en direct, c'est le vrai début pour toi, le moment où le public t'a découverte. Et écoute qui était numéro 1.
Christina Milian.
Non, c'est jamais. Non, c'est pas grave.
C'est, ouais, c'était une Anglaise. Et elle marchait sous un pont dans la rue et tout.
Ah, c'était Jamelia.
Jamelia.
Pas Christina Milian, c'est un peu après. Jamelia.
Ah, waouh. Oui, Christina Milian, c'était bien avant.
Non, après.
Ah, ben, bon, peut-être.
Parce qu'elle est plus jeune, elle est avec.
J'ai bien fait de venir.
Bon, non, mais c'est pas grave. L'une des dates les plus importantes de ta carrière, c'est celle-ci, le 18 octobre 2004.
Et j'attends,
Les skis.
C'était le jour de la sortie de ton premier album, de ton premier single, Ma philosophie. Et ce qui cartonnait, c'était Leslie et J'attends.
On a fait tellement de télé, de plateau ensemble.
Bah, j'imagine, vous avez eu le carton un peu en même temps. Moi, j'étais fan de Leslie.
Moi aussi.
T'as des nouvelles? Pourquoi on l'entend plus?
On l'entend, c'est pas vrai.
On l'entend pas beaucoup. Moi, j'attends qu'elle revienne un peu.
Bah, elle est revenue, elle a fait un super feat avec. Elle a fait un titre mortel, je crois, avec Franglish.
Ah oui, c'est vrai, t'as raison.
Et puis, ils font pas mal de concerts à R&B, là. Ils ont refait plein de grosses scènes et tout.
R&B Fever.
Ah ouais, c'était trop bien.
C'était trop bien, ça.
Ah ouais.
Si je te dis le 4 mars 2006.
Victoire de la musique.
Oui, tu remportes la victoire de la musique de la révélation de l'année. Ça, c'est quand même la classe. Beaucoup d'émotions, j'imagine. T'as commencé ta carrière musicale très peu de temps avant, enfin un an et demi avant, et puis là, direct, une victoire de la musique. Tu t'es senti rassuré par le... Tu t'es dit, même le métier m'a adoubé, le public aussi. Enfin, il y a eu un truc qui t'a rassuré.
Pour moi, c'était un beau point de départ.
Ouais.
En fait, c'était... En fait, il faut savoir que quand même, à cette époque-là, la plupart des gens, et même parfois dans la critique et tout, pas moi spécifiquement, hein, mais on dit que les gens qui sortent des émissions de télécrochet, c'est des artistes éphémères,
ouais,
en fait.
Jetables, un jetables. Peu, c'est ça, ouais.
Et moi, c'est ma hantise de goûter à cette vie d'artiste dont je rêve. Mais juste un peu, et puis après de retourner à ma vraie vie, tu vois, qui me plaisait pas en plus. Et en fait, cette victoire de la musique, au-delà de ce qu'elle veut dire musicalement, c'est comme si je me disais, tout ça, c'est réel, en fait. Ouais. Ça va peut-être être ma vie.
Et ça peut durer, en fait.
Et ça peut durer.
Et ça a duré, effectivement. Et qui était numéro un des ventes à l'époque? Alors, elle, c'est elle a une carrière qui dure. Hein. Madonna avec Sorry.
Incroyable.
J'ai une autre date importante, tiens, le 15 juin 2015. Ça te dit quelque chose peut-être, ça?
C'est mon mariage.
Ah oui, j'ai eu peur. Je me suis dit.
Non, mais comme depuis tout à l'heure, tu me donnes des trucs un peu pro. Qu'est-ce que j'ai fait le 15 juin 2015
pas que... Le 15 juin 2015, a priori, tu te maries avec Patrick. Parce que je ne suis pas trompé de prénom ce coup-ci. C'est pas Philippe, c'est Patrick.
Philippe, c'est le maire.
Philippe, c'était peut-être le maire qui vous a marié. Le tube sur lequel vous avez forcément dansé à la soirée, peut-être, c'était ça.
Non, on n'a pas dansé sur ça.
Vous n'avez pas dansé là-dessus?
Non, on n'a même pas dansé.
Ah bon? Vous avez fait quoi?
Je voulais des violonistes. En fait, je voulais comme Titanic.
Bah, ça a coulé à la fin, fais gaffe.
Les femmes et les enfants d'abord. Ouais, je voulais faire un mariage genre super romantique sur un toit, dans Paris, avec des violonistes. Il y avait des messieurs qui ressemblaient à votre collègue.
Avec le costume et la cravate. c'était bien, c'est un bon souvenir.
Bah, les gens, je pense, ils se sont fait un peu chier. Mais j'avoue que je m'imaginais pas un mariage genre avec un DJ.
Ah,
ou...
tu voulais pas
Non, je voulais un truc hyper romantique, hyper sobre, hyper intimiste.
Et c'était bien quand même.
Et en vrai, je venais d'apprendre que j'étais enceinte.
Ah, c'est génial.
Depuis une semaine.
Alors ça, c'est romantique.
Ouais. Les femmes et les enfants d'abord.
Exactement. D'ailleurs, on parle de famille. T'as 3 enfants. Hein. Je vais pas faire les 3 dates de naissance parce que ça ferait trop long. Mais il y a les 2 grandes, donc Sophia et Anna.
8 et 10 ans.
J'ai choisi la Zaïn, ton garçon. La dernière date, donc, c'était le 7 avril.
C'était le 5. Ils se sont trompés.
Ah bon?
C'est parce que j'ai.
Moi, j'ai vu 7 avril 2022. Ouais, c'est le 5.
Ils se sont trompés.
Peut-être l'accouchement a été très long.
Non. Il a été très long, mais ça a commencé plus tôt, pas plus tard.
Donc 5 avril. Je corrige, voilà.
5 avril.
Et donc le père
2022.
S'appelle Philippe. Patrick, pardon.
Et le fils ne s'appelle pas Zaïn, en fait.
Je vérifie. Mais quel était le tube à l'époque?
Ah bah c'est vraiment, elle va bien la chanson. Hein. Et il est né, c'était le dernier jour du disco. Ah, j'ai pas redansé pendant un moment. Hein.
Ah oui, c'est
je suis plus jamais ressorti.
C'est un accouchement difficile ou non? C'est juste parce que...
Ça a été très long. Hein. Ah bah 41 heures de contraction.
Hein. Ah oui, monsieur.
Sophia l'avait fait 30 heures et lui, il a battu des records. Même 48 heures.
48 heures. Et ah bah finalement, pas... c'était pas faux la date.
Ah ouais, non, le dernier jour du disco.
Ah ouais, ouais.
Crois-moi, Croisic, on est sur une bonne piste.
Eh ben, si tu veux, on va écouter la chanson en entier. Tu vas peut-être pouvoir redanser enfin.
Non, ça y est, je redanse.
Ah, ça y est, maintenant c'est
périnée
bon.
Périnée tout nickel. Tout
ah,
bien.
Le périnée est nickel. On embrasse voilà. Zaïn, on pense à Philippe, à Patrick,
mon
à Anna,
fils d'amour,
à Sophia.
Mes 3 enfants que j'aime de toute ma vie, comme il dit mon fils. Maman, hier, il m'a dit un truc, j'ai envie d'écrire une chanson. Il m'a dit, j'étais en train de faire une machine. Il me dit, maman, je peux t'aider? Je lui dis, bah oui. Mais je dis, mais j'ai pas besoin, regarde, c'est fini. Il me dit, mais maman, tu sais, à chaque fois que je t'aime, j'ai envie de t'aider.
Oh, mais c'est tellement mignon.
Mais à chaque fois que je t'aime, c'est pas un titre de chanson.
Bah,
chaque fois que je t'aime,
ça me donne envie de t'aider.
Non, pas la suite.
Ah bon?
Mais juste à chaque fois que je t'aime, je trouve que c'est.
Faire une machine. Non, on peut aller.
À chaque fois que je t'aime, point.
Avec de la soupline.
Ah, ça oui.
Hein, ça rime.
Ça, c'est la base.
On fait un placement produit. Allez, le dernier jour du disco et on dit au revoir.
M Radio, M Radio.
Bienvenue chez Beaugrand, 10h midi sur M Radio.
Amel Bent était notre invitée ce matin sur M Radio. Pourquoi tu restes ?
Dis-moi pourquoi tu restes, si t'étais vraiment honnête.
C'est le dernier tube extrait de l'album, tube énorme évidemment. Tu vas le chanter sur scène.
En bah
ouais, ça veut dire oui ça. Et plein d'autres chansons, on a bien compris. Qu'est-ce que tu fais là ?
Cadeau.
Alors, elle appuie sur son téléphone.
À chaque fois que je t'aime, je vais t'aider à chaque fois.
D'accord, merci. Oh, il est trop mignon. C'est donc Zayn. On va terminer en beauté avec ton fils. Il est trop mignon.
À chaque fois que je vous aime, je vais venir vous voir.
Et nous, à chaque fois qu'on t'aime, on va venir te voir sur scène, surtout parce que c'est à partir du mois d'avril dans toute la France, quelques dates. Ça commence le 16 avril à Lyon. Il y aura aussi Montpellier, Marseille, Nantes, Rouen, Reims, Bordeaux, Florac. Bref,
on n'oublie pas Bruxelles.
Forcément
aussi,
près de chez vous, il y aura Bruxelles aussi. Et le 29 avril à l'Accor Hotel Arena de Paris, avec un petit peu de stress, j'ai l'impression. Voilà.
Non,
pas du tout. Tout va bien.
J'ai envie de faire pipi.
Il te reste quelques petites semaines. Les toilettes sont au bout du couloir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Le podcast est dispo évidemment sur le site de M Radio.
Ah,
on se retrouve
bien.
Samedi prochain, 10h midi. Et n'oubliez pas, d'ici la semaine prochaine, soyez beaux, soyez grands, soyez
bon grand.
Ciao.